Alors, je vous annonce le plan de la matinée pour que vous puissiez bien anticiper qu'on soit le plus productif possible. Donc, pendant une heure et demie à peu près, jusqu'à la pause, je vais vous parler de construction du langage des enfants, surtout la syntaxe. Qu'est-ce qui se construit d'important dans la syntaxe des enfants? De tellement important qu'on doit l'avoir constamment en tête. Je vous donne trois repères, vous allez voir à un moment donné. On doit avoir tous ces trois points-là constamment en tête quand au quotidien on interagit avec des enfants. Pour que vous ayez envie de m'écouter, je vais rentrer dans ce problème-là justement par le problème des interactions. Qu'est-ce que c'est qu'une interaction adulte-enfant réussie, c'est-à-dire utile à l'enfant, qui l'aide dans sa reconstruction de notre syntaxe orale. Vous savez que pour certains, c'est laborieux, et évidemment, c'est ceux-là qui doivent retenir le plus notre attention. Donc voilà, ça va nous occuper dans la première partie de la matinée. Si j'ai un peu le temps, juste après la pause, quelques mots sur oral et écrit, mais vraiment sous l'angle de l'oral, sans se perdre dans dictée à l'adulte, etc., parce que sinon, on va y perdre un temps fou. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, je fais très pratique, je vous propose deux outils qui sont popularisés considérablement. Quand on tape sur Internet, on voit l'autre jour, il y a par exemple les albums Echo, des petits albums montés sur les photos des enfants en action. On a rodé par exemple ce type d'outil de façon industrielle dans la ZEP de Creil. On avait des gros moyens pour y arriver et franchement ça a entraîné des progrès considérables de ces petits enfants d'une zone vraiment très défavorisée. Donc, sur Internet, l'autre jour, il y avait des albums éco fabriqués en Nouvelle-Calédonie qui étaient vraiment extrêmement intéressants. Donc, vous voyez, ça se promène un peu comme ça à travers le monde. Et puis, en finale, je vous parlerai d'albums en syntaxe adaptée. Par exemple, les oralbums de chez Retz. Donc, ce sont pas du tout des albums propédeutiques à l'écrit. Ce sont des albums qu'on raconte aux enfants dans le style de l'oral pour les entraîner à les raconter. Donc ce sont des albums pour accompagner la construction du langage oral des enfants. Entre les albums écho et les oralbums, il me restera bien un bon quart d'heure, et là je vous parlerai donc de vocabulaire, comme dans la première partie. Où est-ce que c'est ça? Ça y est, bon d'accord. Alors, comme dans la première partie, je vais insister sur la syntaxe, là vous aurez quelques repères sur le vocabulaire. Ça serait mieux qu'on ait plus de temps, mais on n'a pas énormément de temps sur le vocabulaire. Donc je vous donnerai au moins, je vous ferai apercevoir 5 vecteurs pédagogiques, ces 5 armes qui permettent de vraiment diversifier le vocabulaire. Voilà, ça vous fait un peu le tour. Donc, par contre, on n'aura pas le temps de parler d'articulation. Il faudrait une séance entière pour la mise en place de l'articulation avec les petits-enfants en particulier. Alors, si vous avez dans la tête, souvent quand les gens viennent dans une conférence comme ça, ils pensent, vous savez, à la panoplie de situations qu'ils mettent en œuvre au quotidien dans leur classe, et ils espèrent que là, on proposera des situations nouvelles. Bon, on n'a pas le temps de faire ça. Si vous avez des soucis comme ça, dans les livres que j'ai faits, même si vous prenez le résumé, enfin le concentré de chez Retz, là, qui fait 300 pages, les 150 premières pages, c'est que des situations. Voilà. Vous avez des situations qu'on a rodées avec les 3 ans, avec les 4 ans, avec les 5 ans. Pour chaque situation, on vous indique les petits points de syntaxe que ça permet de travailler, ce qui va prendre corps avec mon exposé de départ. Dans ce livre-là, vous savez aussi que on travaille déjà le vocabulaire. Non seulement on travaille la syntaxe, mais on vise 750 mots dès 3 ans pour atteindre 1500 mots à 5 ans et parvenir à 2500 pour atteindre 1500 à 4 ans et parvenir à 2500 à 5 ans. C'est les repères qui ont été repris dans un document récent national. Donc, si vous avez des soucis de ce côté-là, il faut un peu aller à la pêche aux situations. Vous allez voir, il y en a plutôt pour les 3 ans, d'autres pour les 5 ans, assez différentes, qu'il faut prendre en fonction de l'âge, en fonction aussi de votre plaisir plus ou moins grand à manipuler tel type de situation. Et dans le lot, il y en a certainement qui vous plairont. Alors, autre chose à vous dire à propos de situation. Ce que je me permets de vous raconter ce matin, concernant la syntaxe en particulier, Bon, sachez quand même que moi, pendant 40, 45 ans, j'ai lu à peu près tout ce qui est sorti sur le langage de l'enfant. Mais ce que je vous raconte, c'est pas du tout la récapitulation de données livresques. Ça vient d'expérimentation. En gros, ce que je vous raconte, ça vient au moins de 200 situations sur les tenants et aboutissants desquels on avait bien réfléchi. On les a vraiment mises en œuvre, soit en classe complète, soit en demi-classe, soit en groupe de langage. Groupe de langage, c'était 5 enfants, dont les 3 les plus en difficulté de telle classe. On a mis ça en œuvre, on a au moins enregistré. Pour les plus courageux d'entre nous, on a fait des vidéos. Et puis ensuite, on a scruté ça dans le détail, un vrai travail de moine. On a tout écrit ce que disait chacun des enfants, sans tricher, hein, exactement ce qu'il a dit. Et puis même les relances des adultes pour aller à la pêche aux relances qui marchent, par opposition à celles qui ont plutôt tendance à éteindre la prise de parole enfantine. Donc voilà, on a un énorme travail comme ça. Ceux qui ont connu mes livres il y a 10-12 ans, par exemple « Introduction à la pédagogie du langage », on avait dans ces livres des grilles gigantesques sur 3 pages avec des dizaines et des dizaines de colonnes. Chaque colonne correspondant à un petit point de syntaxe qu'au quotidien on entendait dans la bouche de nos élèves. Ça nous permettait, je vous assure, de tout décrire. Rien ne nous passait entre les doigts. N'importe quelle forme d'enfant, on arrivait à en rendre compte. Et donc, nos enregistrements, on les a décrits, vous voyez, on les a évalués. Et on s'est fait une idée très précise de ce qu'était la syntaxe des 3 ans, comment ça bougeait à 4 ans, qu'est-ce qui disparaissait, qu'est-ce qui se mettait en place, comment ça se perfectionnait à 5 ans, etc., etc. Vous allez voir qu'à un moment donné, donc là tout le monde va être concerné, je vais prendre des repères même dans le primaire, qu'est-ce que c'est que la syntaxe des CM2 ou des 5e de collège ou bien la nôtre. Nous les pédagogues du langage en stage, on s'est mis, vous voyez, dans des situations grossièrement analogues à celles qu'on fait vivre aux enfants pour voir ce dont on est capable au regard de ce qu'on attend des élèves. Bon, donc, ça doit vous tranquilliser. On invente ce que je vous raconte, vous avez des vrais enfants, des vraies situations élaborées par des pédagogues comme vous. Bon, les gosses sont souvent de zèbre parce que j'ai travaillé énormément dans des zones plutôt défavorisées. Mais on a aussi exprès enregistrer les gosses des quartiers les plus favorisés pour voir justement en quoi c'était semblable ou différent. Bon, j'en arrive à mes interactions. Là. Quelques mots. Je précise que j'entends par interaction. Je m'intéresse surtout, comme Lantin il y a 40 ans, je m'intéresse prioritairement aux interactions adultes-enfants. Vous savez qu'il y a aussi des interactions entre les enfants. Surtout, vous avez souvent des classes à âge différent, à âge brassé. Donc là, vous vous doutez que les petits, par exemple, ont tendance à se reconstruire en direction des structures qu'ils entendent dans la bouche des plus grands. Vous avez les grands déteignent sur les plus petits. Évidemment qu'il y a un phénomène comme ça, mais d'évidence, les propositions des adultes sont plus intéressantes parce que les adultes font exprès de faire telle ou telle chose quand ils interagissent avec les enfants. Donc, c'est surtout les interactions adultes-enfants qui m'intéressent. Interactions, ça ne se confond pas. Même s'il y a des éléments communs, au niveau des relances en particulier, ça ne se confond pas avec les tactiques d'animation qui marchent quand on mène le grand groupe. Quand vous avez vos 25-30 gamins dans le carré de banc, vous êtes, à juste titre, préoccupé prioritairement par la quantité. C'est-à-dire la quantité des orateurs. Vous êtes content si beaucoup d'enfants parlent. Si par exemple vous avez réussi à faire que Hugues, Azim et Christiane, qu'on n'entend jamais, se mettent à ouvrir la bouche, vous êtes vraiment très content. On est encore plus content si Hugues ouvrant la bouche, parce qu'on le connaît bien, on trouve les 3 petites relances qui vont faire qu'il continue à parler. On est content aussi si beaucoup d'enfants parlent, mais pas juste pour poser 1 ou 2 mots en réponse à une question qui est peut-être trop fermée de notre part, mais on arrive à les provoquer de telle façon qu'ils vous posent 5-6 phrases, un peu rustiques, un peu malhabiles, mais au moins il y a du matériau, il y a de la quantité sur lesquelles éventuellement on va pouvoir travailler. Donc si vous avez des objectifs comme ça prioritairement de quantité, l'expérience prouve, je vous dis ça par exemple pour avoir décrit des séquences menées par des virtuoses. Il y a des gens, par exemple, qui avaient une grande habitude du maniement du grand groupe en section de 4 ans, hein, ce qui n'est pas déjà évident. Presque toujours, ces gens-là sont assez avares en mots. Ceux qui obtiennent beaucoup de production de la part des enfants posent eux-mêmes relativement peu de mots. Par contre, c'est toujours hyper théâtralisé. Vous voyez, intonation exagérée, des mimiques expressives qui démontrent à l'enfant à quel point il est écouté par l'adulte, de la gestuelle éventuellement, il y a toujours de la théâtralisation. Peu de mots théâtralisés, c'est souvent ce qui donne une bonne quantité de production des enfants. Alors, j'en arrive à mes interactions. Quand on est en interaction, on n'est pas tout à fait dans cette situation-là. On vise toujours la quantité, mais en plus, on vise la qualité progressivement conquise par les enfants. Et du coup, ça vous oblige à poser plus de mots que ce que je viens de raconter précédemment. En particulier, il faut poser des feedbacks, des échos aux tentatives malhabiles des enfants pour essayer, en s'ancrant bien dans ce qu'ils ont tenté de faire, de le déplacer en direction d'un oral déjà un peu plus construit, vous voyez, leur portée, qui va tout doucement les déplacer vers des modèles de plus en plus efficaces. Du coup, comme Lantin nous l'a mis dans la tête il y a 40 ans à peu près, le grand groupe, on le sait bien, c'est pas le lieu idéal pour interagir. Hein, si vous mettez à poser des feedbacks en quantité avec tous les enfants qui parlent, y compris vos champions de langage, vous allez envahir le temps de parole et du coup ça ne marchera plus, vous savez, côté quantité. Ça aura tendance à casser la quantité de mots émises par les enfants eux-mêmes. Donc c'est pas le lieu idéal, le grand groupe, pour interagir. Quand même, si en grand groupe, vos enfants les plus en difficulté se mettent à parler, quitte à éteindre un peu les leaders qui sont toujours envahissants, vous le savez bien, il faut leur consacrer quelque chose qui est de l'ordre de l'interaction, parce que c'est complètement prioritaire qu'ils s'apprivoisent à la prise de parole en grand groupe. Alors, il y a d'autres cas. Hein. Tout à l'heure, on va prendre le cas d'une fillette, par exemple, qui tente quelque chose qui est plus armé qu'un enfant en difficulté, elle tente quelque chose de difficile et elle n'y parvient pas. Donc là, évidemment, il faut poser un feedback qui va l'aider à faire la conquête qu'elle a envie de faire et qu'elle ne parvenait pas spontanément à faire. Bon, quand même, on ne peut pas interagir avec tous les enfants en grand groupe. La solution de Lantin, auquel elle croit toujours, j'ai vu Lantin il y a 2 ans, c'est une vieille dame de 90 ans maintenant, en fauteuil roulant, mais elle croit toujours à l'inter-individuel. La solution de Lantin, c'était, on se déplace dans la classe, c'est le moment de l'accueil, par exemple, ou une structure en atelier, on va converser 30 secondes avec un enfant, 1 minute avec un autre, 2 minutes avec tel autre. Souvent, on ne croit pas à l'influence de ce qu'on fait là, parce qu'on pense que c'est trop fugace, vous voyez, ça dure pas assez. Alors nous, on sait, dans les classes où je travaillais, on était en équipe de recherche, on avait souvent 3 caméras qui tournaient de temps à autre. On poussait l'objectif en direction d'une interaction qui nous semblait intéressante, là. Et puis, quand vous avez, par exemple, vos interactions diluées sur 6 heures de prise de vue, vous ne voyez rien. Vous voyez, en effet, vous dites, c'est presque rien. Alors, on s'amusait à remonter toutes les interactions au banc de montage, les unes derrière les autres, vous voyez, pour faire du concentré d'interaction. Quand vous voyez du concentré d'interaction, ça donne complètement raison à Lantin. Hein. C'est-à-dire que c'est évidemment un des volets les plus importants de la pédagogie du langage en classe. Même si c'est bref, ça laisse probablement des traces parce que c'est sur mesure. On a tendance à s'adapter au niveau de chaque enfant. Et c'est ça qui fait l'efficacité de l'interaction. Donc il faut continuer à croire à l'inter-individuel. Alors, il y a 20aine d'années, Lantin, c'était il y a 40 ans, vous voyez, il a du mal à laisser des traces, il y a des choses qui ont été prises en compte de Lantin, mais pas tout. Il y a une vingtaine d'années, Denise Durif, elle avait été institutrice de maternelle extrêmement longtemps, et puis inspectrice de maternelle, assez longtemps, et elle était formatrice au Centre de formation nationale des inspecteurs. Elle a écrit un livre qui s'appelait « Quel langage en maternelle ?» C'est la première qui a lancé l'idée du petit groupe de langage. Ce qui n'est pas du tout une idée de Lantin. Même maintenant, Lantin n'y croit pas trop. Alors, le petit groupe de langage, à cette époque-là, on faisait des prouesses dans le nom maternel, 2 décloisonnements par semaine, en se trouvant des alliés. Alors, les alliés, c'était des parents bénévoles, des instits de maternelle à la retraite qui venaient donner un coup de main, un prof de judo qui prenait, dans le cadre d'un contrat local d'aménagement du temps de l'enfant, qui prenait un groupe, il ne faisait pas de langage lui, hein, mais ça permettait que par exemple les quatre instits de cette maternelle-là se retrouvent deux fois par semaine pour trois quarts d'heure avec un petit groupe, cinq enfants, dont les trois les plus en difficulté de telle classe. Dès cette époque-là, on a vu que ça entraînait très vite des progrès bien meilleurs que juste le grand groupe ou juste l'inter-individuel. Alors, à l'heure actuelle, vous avez l'aide personnalisée, etc. C'est plus facile qu'avant, quand même. Alors, si on fait ça à des heures où ça marche, par exemple, je vous donne deux ou trois exemples qui semblent judicieux. Dans Paris, ils rentrent à 9h. Beaucoup font venir leur groupe de soutien à 8h15. Ils travaillent trois quarts d'heure avec le groupe de soutien sur une activité qu'ils vont reprendre dans la journée en grand groupe en mettant en vedette le petit groupe. Vous voyez, ça, c'est une bonne idée. Hein, c'est une idée vraiment intéressante. Alors, autre idée, ça c'est dans mon secteur. Dans mon secteur, il y avait une habitude de scolarisation le mercredi matin à la place du samedi, vous voyez, il y a très longtemps. Et du coup, c'est facile de faire venir des enfants le mercredi matin. Alors, je vous assure, un petit groupe de soutien à 9h30 le mercredi matin, on voit bien que c'est éminemment productif. Hein. Si vous travaillez trois quarts d'heure à cette heure-là, vous allez avoir des progrès considérables. L'IEN de maternelle, nouveau modèle de mon département, me faisait remarquer, et elle a vraiment raison, elle dit les trois ans dorment, hein, ils font presque toute la sieste. Eh bien, à 4h30, ils sont bons. Hein, les 5 ans, on n'arrive pas à en faire grand-chose, mais les 3 ans qui ont fait la sieste, à 4h30, on arrive à faire des choses intéressantes avec eux. Donc, vous voyez, il y a des pistes à utiliser. À un moment donné, j'ai tendance à être véhément là-dessus, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai pu tester ça, vous voyez, avec bande vidéo à la clé. J'étais formateur de maître E. Tous les jeudis matins, on allait dans la ZEP la plus redoutable de mon département, et il ou elle prenait en charge successivement deux groupes de langage, comme ça. Cinq enfants, dont les trois les plus en difficulté de telle classe. Comme c'était la IES, elle ne commençait qu'à 5 ans. En fait, dès 3 ans, on connaît les enfants en difficulté, on peut faire des choses, mais là, on commençait qu'à 5 ans, donc plutôt tardivement. Elle n'avait que 3 quarts d'heure par semaine. Tous les 15 jours, tourner une caméra. On filme la prestation du futur maître E tous les 15 jours. Donc, on a des vidéos de début d'année, de milieu d'année, de fin d'année. On voit les progrès des pédagogues, mais on voit surtout les progrès des enfants, je vous assure. Un 5 ans qui a l'air complètement largué au début de l'année scolaire de grande section, on le retrouve à la fin entré, vous voyez, quasiment dans des zones de normalité syntaxique. Les progrès sont énormes. Jamais on aurait eu tel progrès avec juste le grand groupe ou l'inter-individuel. Vous avez une accélération qui est liée au temps de parole qui est bien plus énorme accordé à chacun, et puis aussi à la densité des interactions adultes-enfants qui est beaucoup plus grande. C'est ça qui fait les progrès. Bon, j'ai fini mes parenthèses. Alors maintenant, je vais mettre devant vous des exemples d'interactions en syntaxe montante. Vous voyez, une 2 ans, un 3 ans, un 4 ans, puis un 5 ans, 2 5 ans. Une très armée opposée à un enfant très en difficulté. Et ça va nous permettre de raisonner sur la qualité des interactions, et puis aussi de vous mettre devant vous une espèce de simulation de la construction. Bon, ça n'aura d'effet que parce que vous avez une habitude importante tous les jours de la conversation avec l'enfant, au moins de l'enfant de tel ou tel âge. Alors, on va avoir un exemple on est dans une section de 3 ans de Pontoise, le quartier défavorisé de Pontoise. La fillette qui parle là est très en retard, donc c'est plutôt un exemple à 2 ans. Hein, elle parle comme une 2 ans. Elle a une voiture cassée à la main, elle s'approche de la maîtresse, elle tend sa voiture, et la phrase c'est « cassé, ouas-tu ?»« Cassé, ouas-tu ? Papa, pâti, encore, bonbon ?» Vous savez, c'est l'infrasyntaxe à deux mots caractéristique des 2 ans. On peut spécifier ce modèle-là, regardez, c'est souvent deux mots, de deux syllabes. Les syllabes sont toujours consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle. C'est souvent la même consonne ici et là, ou bien ici et là. C'est un modèle quasiment international. Vous avez un linguiste nord-américain, ça fait 10-15 ans à peu près qu'il produisait, qui s'appelle Slobin, qui a travaillé sur l'acquisition d'une soixantaine de langues extrêmement différentes les unes des autres dans le monde. Et il s'est aperçu que presque tous les enfants du monde, aux alentours de 2 ans, faisaient ça. C'était en partant de langues extrêmement différentes. Par exemple, pour les articles de vulgarisation de Slobin en Europe, il contrastait les progrès d'un petit turc et les progrès d'un petit français. Pour ceux qui connaissent un peu le turc, turc et français, c'est pas du tout organisé syntaxiquement de la même façon. Vous voyez, nous, on a tendance, vous avez des places par ici, là. On pose nos marques grammaticales à l'avant des groupes. Vous savez, quand on ouvre la bouche pour tel ou tel groupe, les pronoms, les déterminants, les prépositions. Vous voyez, on commence par poser des repères grammaticaux comme ça. En turc, il n'y a rien à l'avant des groupes, tout est agglutiné à la fin. Eh bien, vous êtes petit turc, vous êtes petit français. Vous baignez dans des langues extrêmement différentes. Aux alentours de 2 ans, vous développez ce modèle-là. Slobin avait été marqué par Chomsky, dont vous avez entendu parler. Chomsky n'avait pas notre sens habituel de l'apprentissage du langage. Nous, on a été marqué par Brunner, Vygotsky et compagnie. Et on est convaincu que c'est la qualité de l'interaction adulte-enfant qui conditionne les progrès des enfants. Chomsky était nativiste. Il pensait que tout était prêt dans le cerveau. Et qu'il suffisait d'exposer l'enfant à du langage pour que la machine d'elle-même se mette en route et reconstruise la syntaxe entendue. Alors, d'une certaine façon, le fait qu'un peu partout dans le monde, on développe cette structure-là, donne raison à Chomsky un peu. Si vous partez de langues aussi différentes que le turc et le français, et vous faites la même chose, c'est pas inhérent aux langues, vous voyez, c'est le déploiement plutôt de quelque chose qui est tout près dans le cerveau gauche des petits humains. Mais, sur cette base un peu internationale, ensuite, vous reconstruisez, vous attrapez les structures de votre langue cette fois-ci, que si vous bénéficiez d'interactions de qualité. C'est la qualité des interactions qui vous fait passer de ce modèle international à un modèle qui est celui de votre langue. Alors, d'où l'importance des interactions. Voilà. Alors, les interactions jouantes, vous allez voir, elles sont souvent un peu au ras des pâquerettes. Je prétends qu'elles ne sont pas mauvaises du tout. À chaque fois, je vais justifier pourquoi, qu'est-ce qui fait que cette interaction est bonne. Donc là, la gosse a dit casser ou as-tu. L'instinct commence par poser un feedback, un espèce d'écho. Mais cet écho, elle ne le fait pas n'importe comment. La proposition de l'enfant était binaire, casser ou as-tu. Elle sélectionne l'adulte, elle sélectionne dans l'oral adulte à grande fréquence la structure binaire qui ressemble plus à la tentative malhabile de l'enfant. Elle est cassée, oh, elle est cassée ta voiture. Vous voyez, même l'intonation appuie sur casser et sur voiture. Le gosse reconnaît intuitivement que c'est une reprise de ce qu'il a dit. Mais c'est pas complètement différent de ce qu'il a dit. Maintenant, quand même, vous avez un pronom, elle, un verbe conjugué au présent, est, voiture a attrapé son déterminant, ta, et puis ça, c'est mieux articulé que ce qu'a dit l'enfant. Mais c'est pas à 100 km de ses possibilités, vous voyez, c'est très à sa portée, c'est sur la marge du dessus. Si l'adulte a de la suite dans les idées et fait ses propositions toujours un peu comme ça, très vite, le modèle de l'enfant, la grammaire de l'enfant va se déplacer dans cette direction-là. Ça, c'est le feedback, c'est la culture de la qualité. Ensuite, elle fait tout à fait autre chose. Elle pose une relance, elle entretient la conversation. Elle lui propose un nouveau thème en lui disant « Et pourquoi elle est cassée ?» Elle aurait pu dire « Comment ça se fait ?» Je ne sais pas quoi. Donc, elle le pousse à continuer à parler, vous voyez, en quantité simplement. Une bonne interaction doit toujours avoir au moins ces deux dimensions-là. Des relances qui entretiennent la conversation, qui permettent d'obtenir de la quantité et plus souvent qu'on le fait habituellement, des feedbacks qui s'ancrent bien dans ce qu'a tenté de faire l'enfant pour le déplacer vers un modèle un peu plus élaboré, bien dans l'ordre de l'oral. Vous n'êtes pas obligé de faire répéter les feedbacks. Je vous le dis tout de suite, parce qu'après j'ai tendance à l'oublier. Donc, si les enfants qui... À un moment donné, je travaillais avec un petit groupe de Vietnamiens, de petits Vietnamiens, qui reprenaient systématiquement tout ce que je disais. Sachez qu'ils ont fait des progrès énormes. Les gosses qui répètent spontanément comme ça progressent très, très rapidement. Cas intermédiaire, en rééducation, ça se voit souvent, vous faites une proposition à l'enfant, vous la susurrez comme ça, d'une façon légèrement incitative, le gosse ouvre la bouche, il a envie de reprendre, il hésite, il faut l'inciter à le faire. Bon, mais si un enfant ne reprend rien du tout, je vous garantis, pour avoir expérimenté là-dessus, le simple poser du feedback va faire qu'il va progresser. Donc il faut poser vos feedbacks le mieux possible, bien articulé, etc. C'est ça qui va faire progresser l'enfant. Nous, par exemple, avec les outils comme les albums écho, parfois on a 10 séances successives sur un même album avec tel enfant, vous voyez, étalé sur un trimestre. Et on voit bien que tel enfant qui ne reprend jamais les feedbacks, quand même, de séance en séance, grâce au feedback, peu à peu, ses prestations s'améliorent considérablement. Alors, ça, c'était un exemple à 2 ans. C'est la conquête de la phrase simple de l'oral, « Elle est cassée, ta voiture. »« Ta voiture, elle est cassée. » Vous voyez ces phrases avec 2 fois le sujet. Ce modèle-là de phrase simple, c'est 20% des phrases simples des enfants émise à l'école primaire, maternelle et élémentaire. C'est une des 2 structures simples très utilisées à l'oral par les enfants. Alors, on va prendre 1 an de plus. On va dans une section de 3 ans. Les enfants viennent de jouer dans des cartons d'emballage, dans une salle parquetée comme celle-ci. Ils ont fait plein de choses, des tours qu'ils ont fait écrouler, des tunnels dans lesquels ils se sont invités. Sont enfilés pour aller ressortir de l'autre côté, et à un moment donné, ils se sont tous assis dans les cartons, spontanément, ils poussaient avec leurs mains sur le parquet en disant qu'ils faisaient une course de voiture. La séance s'arrête, une des animatrices embarque un groupe de soutien, dans lequel il y a un petit bonhomme qu'on n'entend jamais, vous voyez, on s'entend bien avec lui, c'est quelqu'un qui a l'air assez jovial, mais il ne produit pas de mots, quoi. Un jeu, par exemple, en classe, en petit groupe, il participe, mais quand on le titille pour qu'il parle, on obtient très peu de choses de sa part. Là, il a dû faire quelque chose qui le passionne dans les cartons d'emballage. L'animatrice s'arrête dans la BCD qui est pas loin, installe son petit groupe en rond, arrive quelqu'un qui n'était pas là à la séance, et astucieusement, l'animatrice propose aux enfants de raconter à cette personne tout ce qu'ils ont réussi à faire dans les cartons d'emballage. Hugues, qu'on n'entend jamais, prend la parole le premier. Sa phrase, c'est « Moi, il a fait une voiture au carton. » Alors, côté quantique, elle est contente, elle l'a entendu, elle va d'ailleurs réussir à s'il continue à parler. Côté qualité, c'est pas parfait. En particulier, ce 3 ans n'a pas encore reconstruit son « jeu ». Vous voyez, il a le « moi », vous avez tous repéré qu'ils ont tous le « moi » avant d'avoir le « je ». Il a déjà le « moi », pas encore le « je ». Alors, regardez, tous les détails de son interaction sont intéressants. Ils étaient en rond, comme ça. Le gosse s'était adressé au groupe, elle était assise à côté de lui. Elle tente d'abord ce qu'on appelle un feedback en assistance. Elle se penche vers lui et sur la base de ce qu'il a dit, elle lui susurre « Moi, j'ai fait une voiture dans le carton, en espérant qu'il s'en empare. » Alors, quand même, c'est bien choisi. C'est toujours pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Le gosse a déjà le « moi », elle répète le « moi » pour s'appuyer dessus. Elle veut lui faire conquérir le « jeu », c'est un objectif totalement prioritaire en section de 5 ans dans l'ordre de l'oral. Elle va s'en servir pour placer son « jeu », évidemment. Donc, vous voyez, il y a une bonne gestion de tout ce qu'a déjà reconstruit l'enfant pour lui faire conquérir quelque chose de prioritaire dans l'ordre de l'oral. Ça ne marche pas, elle ne connaît pas encore assez l'enfant, là, il y a un petit silence embarrassé. Donc, elle change de tactique, mais là aussi, c'est intéressant, elle prend la tactique habituelle. Vous savez, elle se dit, cet enfant-là n'a pas encore son jeu, il n'a pas dû bénéficier d'assez d'interactions dialogiques avec ses parents, je vais lui dire tu, le jeu de ping-pong je, tu va se mettre en place, il finira par dire je, ce qui s'est pas, elle l'a accompagné tout au long de l'année, là, ce qui s'est produit assez vite, un mois après son jeu s'est mis en place. Donc elle lui dit tu, elle lui dit bon, tu as fait une voiture avec le carton. Alors vous voyez, c'est toujours pas à 100 km de ses possibilités. Elle ajoute oh, ben ça, c'est intéressant. Alors le petit bonhomme, c'est un petit noir superbe. On voit ses yeux qui brillent. Donc il a compris les compliments, il est content. Ensuite, elle ajoute trois timides. Et après, et à chaque fois, il reprend la parole. Donc au moins, côté quantité, elle a gagné la partie. Ça y est, elle a commencé à réussir à l'apprivoiser. Mais même côté qualité, vous voyez, c'était pas bête du tout. Elle a bien géré ce que ça allait faire l'enfant pour essayer de le pousser plus loin. Ce coup-ci, c'était la conquête d'une autre phrase simple. On va enlever le moi qui fait ressembler à la structure du haut. Avec le moi, vous avez deux fois le plus. Simplement la conquête de la forme « j'ai fait une voiture dans le carton ». Vous voyez cette phrase qui commence par un pronom. Là, c'est « je », ça aurait pu être « tu »,« il », »,« elle ». Cette forme-là, c'est 60% des phrases simples émises par les enfants à l'école primaire, maternelle et élémentaire. 60%, c'est une phrase, c'est l'atome de base de l'oral français. Alors, ça, c'était la conquête des phrases simples. On va prendre un an de plus et du coup, évidemment, ça va être plus difficile. On va dans une section de 4 ans. Section de 4 ans, la fillette qui va s'exprimer est moyenne dans sa classe de moyens. Vous voyez, ce n'est pas une championne de langage, ça n'est pas une enfant en difficulté. Ce coup-ci, en amont de cette séance-là, 15 jours avant, la maîtresse avait présenté l'ancêtre de cet hors-album, la petite poule rousse. À l'heure actuelle, vous avez des CD qui permettent des réécoutes. À cette époque-là, c'était tout bricolé, vous savez, c'était sur bande magnétique. On pouvait réécouter sur magnétophone à répartiteur ou sur baladeur aussi, on avait des baladeurs. Donc, elle avait présenté la petite poule rousse 15 jours plus tôt, représentée le lendemain, et puis ensuite, dans le coin écoute, pendant 15 jours, elle avait repéré que les enfants avaient écouté et réécouté la petite poule rousse. Vous avez des petits bruits de clochettes qui vous disent à quel moment tourner la page, etc. Donc ça a été très réécouté. Au bout de 15 jours, elle va au résultat. Un matin, elle a son album géant devant elle, elle a son grand groupe dans le carré de banc, elle tourne les pages. Elle ne raconte plus rien elle-même, elle demande aux enfants de raconter. Vous avez tous fait ça, des choses analogues à ça. Alors souvent, vous avez des propositions un peu fractionnaires, un gosse pose une idée, puis une autre idée. De temps en temps, vous faites une synthèse en améliorant un peu les choses syntaxiquement. Bon, voilà, elle fait ça, et dans ce cadre-là, donc cette fillette moyenne dit, elle fermait bien sa porte, pour qui, pour... Elle s'arrête là, elle tombe en panne, et elle boucle en disant « Comme ça, il ne pouvait pas rentrer le renard. » Donc, elle a tenté un « pour que ». Alors, je vous ai dit, c'était une fillette de 4 ans moyenne. Certainement qu'elle a, elle a déjà fait d'autres phrases complexes, plus faciles. Le « parce que », par exemple, vient très vite en maternelle. Le « que » complétif, « il veut que », etc., ça vient très vite. Le « pour que » est déjà un peu plus difficile. Alors, elle a déjà fait, vous voyez, c'est pas une championne, elle ne fait pas une phrase complexe sur deux. Elle rentre dans la conquête des phrases complexes. C'est probablement le premier pour que de sa vie. Vous voyez, si elle essaye, il était dans l'histoire racontée. Là. Elle essaye de le faire et ça ne marche pas. J'ai mis sans tricher exactement ce qu'a posé l'adulte à ce moment-là. C'est un peu au ras des pâquerettes, ça fait qu'après on va peut-être se distancier en disant elle aurait pu peut-être académiser un peu. Mais si je vous en parle, c'est parce que ça va être productif. Ça va permettre à l'enfant de conquérir son pour-que. Alors, au passage, vous avez vu, elle a une phrase simple, hein, la fillette. Les phrases simples de tout à l'heure, vous les retrouvez. Vous avez par exemple, elle fermait bien sa porte. Il ne pouvait pas rentrer le renard. Hein, vous reconnaissez les deux structures qui étaient au-dessus. Et elle est en train de faire beaucoup plus difficile. Elle tente une phrase complexe, pas comme mode d'accès en pour-que. Donc, elle vient de faire, elle fermait bien sa porte, pour qui, pour, comme ça, il ne pouvait pas rentrer le renard. L'adulte pose en feedback. Ah oui, elle fermait bien sa porte pour qu'il rentre pas le renard. Et comme elle dit les choses, ça a au moins une vertu, c'est que l'enfant s'en empare, répète la forme de l'adulte à son compte, en plus avec une mimique qui démontre qu'elle est très contente. Et elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire l'instant d'avant, et ça ne marchait pas. Donc, le pour que, comme ça, sur cette proposition de l'adulte, a réussi à passer. Alors, on peut se dire, quand même, c'est pas très académique. Je vous répète les conseils donnés par Hébrard. Vous avez peut-être entendu parler, un inspecteur général qui est venu partir à la retraite, qui s'est beaucoup intéressé au langage des enfants en maternelle et aussi à la conquête de la langue à l'extérieur de notre métropole, vous savez, en Amérique, etc. Donc, à un moment donné, on était dans l'UFM de Cergy, au moins 300, 400 dans l'UFM, que des pédagogues du langage, et il nous donne deux conseils pour notre propre langage. Il nous dit hyper-articulé. Remuez plus l'élève que dans la vie courante, de telle façon que les enfants entendent bien les sons de notre langue. En particulier ceux qui baignent à la maison dans des langues dont la phonologie est différente de la nôtre. Alors ça, c'est un excellent conseil. Deuxième conseil, c'est ça, c'est le non-verbal, gestuel, mimique expressive, exagération des intonations. On sait les enfants très en avance en non-verbal par rapport au verbal. Si vous déployez ces armes-là, ils vont aller plus vite à conquérir le verbal. Je prends ces deux conseils très judicieux des bras. Je les applique à la prestation de ma collègue. Donc, je vais l'hyper-articuler et exagérer l'intonation, théâtraliser la proposition de ma collègue. Ça aurait pu être, ah oui, elle fermait bien sa porte pour qu'il ne rentre pas le renard. Alors vous avez vu, j'ai articulé le N du il. J'ai même placé le ne de la négation. J'ai exagéré mon intonation sur le renard pour le mettre en exergue, faire vivre la phrase à fond. J'ai utilisé ma voix, vous voyez, pour donner plus de texture à cette phrase-là. Vous faites ça, ça n'empêchera pas l'enfant de s'emparer du pour que. Par contre, alors, attention, là c'est les 5 minutes les plus importantes de la journée. Alors, par contre, si, rappelez-vous que cet enfant, c'est pas une phrase sur deux complexe, hein, c'est quelqu'un qui vient de rentrer dans la conquête des phrases complexes, je vous ai dit, peut-être le premier pour que de sa vie. Si tout de suite, pour elle qui vient d'échouer, vous voulez pousser le bouchon de l'académisme encore plus loin, lui faire une proposition qui va être en gros la phrase écrite correspondante, vous avez d'immenses chances que ça ne va pas marcher. Je vous dis ça pour aussi parce que j'ai massivement expérimenté là-dessus. Donc, elle vient d'échouer et tout de suite vous posez, pour faire la phrase écrite, vous voyez ce qu'il faut faire. À l'oral, le renard est souvent détaché à la fin, il faut le faire remonter à la place du i. Et ça serait donc proposé à l'enfant, elle fermait bien sa porte pour que le renard ne rentre pas. Vous faites ça, vous avez des grandes chances qu'elle ne. Ça va devenir possible plus tard, mais à ce moment-là, elle sera incapable de s'emparer de ça. Donc regardez, ça n'est pas le pour que qui pose problème à l'enfant, puisque vous avez réussi à le faire passer en restant plus dans l'oral. C'est le fait qu'en plus, vous lui proposez de basculer dans l'écrit, vous voyez, dans des structures un peu différentes. Donc, à ce moment-là de son évolution, mieux vaut rester un peu dans l'oral, de telle façon qu'elle s'empare du pour que. Alors, au passage, je donne un tout petit peu plus de généralité à ça. Premièrement, c'est la conquête des phrases complexes. Vous avez vu, elle a des phrases simples, elle rentre dans la conquête des phrases complexes. Quand on dit complexe, les gens disent « Oh, c'est ça, c'est pas pour nous, c'est le cycle 3, c'est... » Ou alors les grands, la maternelle. J'ai beaucoup travaillé en ZEP. Section de 3 ans de ZEP, vous avez déjà un quart des enfants qui fait spontanément des phrases complexes. Vous voyez, ça naît dès la maternelle, même dans des milieux réputés défavorisés. Autre chose à vous dire, à la sortie de l'apprentissage du langage oral, les gens qui sont des virtuoses une de leurs caractéristiques principales, c'est la capacité à développer des phrases complexes. Vous voyez, ils en font en très grande quantité avec une grande variété de complexité. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut cultiver pour obtenir de l'efficacité oratoire. Alors, dernière chose à vous dire. Je n'ai pris que l'exemple du pour-que, là, mais tous les détails que je vous donne, que je vais vous donner maintenant, j'aurais pris le parce-que, le quand, le que complétif, le que relatif, le ou relatif, j'aurais eu à vous dire les mêmes choses. En plus, ça concerne, je vous assure, aussi bien les gosses des milieux hyper favorisés que des milieux les plus frustrés. Partout, par exemple, j'ai insisté beaucoup sur l'importance des pronoms, c'est complètement ce qu'on trouve partout dans la conquête des phrases complexes. Alors, justement, l'élément facilitant qui a fait que le feedback de l'adulte est passé, c'est le fait qu'après le pour que, vous avez un pronom. En l'occurrence, vous avez un « i », un « il ». Ça aurait pu être un « je », un « tu », un « on », vous voyez. Le fait qu'il y ait un pronom est facilitant pour la conquête des phrases complexes. Alors, donc, enfin, je vous ai dit, ça aurait pu être amélioré, mieux articulé, etc. Autre chose à vous dire, au passage quand même, regardez, une forme, peut-être pas celle-là, mais la même améliorée à l'aïbrage. Elle fermait bien sa porte pour qu'il ne rentre pas, le renard. C'est une très belle phrase de l'oral. Vous allez enregistrer des conteurs de chez lui, sans arrêt, ils font des formes comme ça. Ils préfèrent à ces formes-là, à l'oralisation de la forme écrite, parce que l'oralisation de la forme écrite, vous n'arrivez jamais à la faire vivre aussi intensément avec votre voix que cette forme-là qui est faite pour l'oral. Elle fermait bien sa porte pour qu'il ne rentre pas, le renard, c'est la bonne phrase de l'oral. Elle fermait bien sa porte pour que le renard ne rentre pas, c'est la phrase à lire avec les yeux à l'écrit. Vous voyez, donc, je rapproche deux choses. Je vous dis, les conteurs de notre pays utilisent ces formes-là. Je vous ai fait comprendre que les pronoms sont facilitants pour la conquête des phrases complexes de l'enfant. On ne voit pas pourquoi nous, on s'en passerait, vous voyez, quand on interagit avec les enfants pour les faire progresser. Alors, quand même, ne croyez pas que d'une façon démagogique, j'incite l'école à abandonner toute conquête de forme académique, tout rapprochement des modèles de l'écrit. Simplement, je dis, là, c'est trop tôt. Si vous voulez, à ce moment où elle en est, elle rentre dans les... Il faut l'aider à faire ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire conquérir les phrases complexes. C'est prioritaire. Plus tard, on pourra la pousser à académiser son langage. J'illustre ça. Je déplace mon exemple à l'oreille du CE2. C'est pas le hasard, hein, c'est sur résultat d'enquête massive. Je suis à l'oreille du CE2, ils sont sortis de votre zone d'influence, là, depuis peu. Il y en a qui commencent spontanément à se rapprocher des formes de l'écrit. Et c'est le moment de cultiver ça. Vous mettez par exemple des CE2 de début d'année à se remémorer des contes qui les ont passionnés à la maternelle, par exemple, ou au CP. Un enfant raconte la petite poule rousse. Dans sa bouche, vous n'allez pas avoir l'échec précédent. Ils vont être capables du pour que, mais peut-être sous une forme ressemblant beaucoup au feedback de l'adulte de tout à l'heure. Ils vont vous dire des choses comme « elle fermait bien sa porte pour que le renard ne rentre pas » ou bien « elle fermait bien sa porte pour qu'il ne rentre pas le renard ». Il y aura toujours un « i » qui traînera. Regardez-le. Si un gosse vous dit « elle fermait bien sa porte pour que le renard ne rentre pas », il n'y a presque plus rien à faire. Ça serait le moment de lui susurrer. Elle ferme bien sa porte pour que le renard ne rentre pas. Il n'y a plus que le « i » à enlever. Vous voyez, là, voilà, c'est à la portée d'une académisation possible. Ça serait le moment de le faire. Alors, sachez que la conquête n'est pas finie. Je déplace l'exemple en hippocagne. On est en hippocagne, les étudiants vont travailler sur le conte français. Première phase, ils se remémorent des contes pour dégager le schéma quinaire ou le schéma d'organisation générale des contes. Un étudiant raconte la petite poule rousse, dans sa bouche, vous risquez d'avoir ma dernière phrase. Elle fermait bien sa porte pour que le renard ne rentre pas. Mais on est en hippocagne, vous avez pour que à droite, ça va faire subjonctif, la matrice est à l'imparfait, elle fermait, en hypocagne, à droite, on espère fortement un imparfait du subjonctif. Donc, il serait du devoir du pédagogue de l'hypocagne de susurrer « Elle fermait bien sa porte pour que le renard ne rentre pas. » Alors, je fais exprès, en partant de l'exemple de l'échec de la fillette, regardez, il y a cinq valeurs qui succèdent. L'échec de la fillette, la phrase « Le feedback au rat des pâquerettes qui a marché. » Améliorer à l'aimbrage. La phrase facile de l'écrit. La phrase difficile de l'écrit. Vous voyez, il y a cinq valeurs qui se relèvent. Vous n'en avez pas une qui est bonne et une qui est mauvaise. En fait, en ce qui nous concerne, notre rôle de pédagogue du langage, on a toujours à proposer à l'enfant, voire au jeune adulte, à lui proposer quelque chose qui est un peu au-delà de ses capacités du moment. Vous voyez, toujours un peu mieux que ce dont il est capable, mais à portée de progrès possible. Il faut rester, quand on est en interaction en particulier, il faut rester comme ça dans la zone proximale de développement, faire une proposition dont il va pouvoir s'emparer pour progresser. Alors, je mets des bémols là-dessus, parce qu'on n'est pas toujours en interaction. Quand vous êtes en interaction avec un enfant, en fait, vous ne parlez pas tout à fait en votre propre nom. Vous faites des propositions à l'enfant pour l'aider à gérer sa propre reconstruction de notre langue. Et c'est là que ce que je vous raconte est opérationnel. Si je représente la construction de la syntaxe de l'enfant sous forme d'un escalier dont il gravit peu à peu les marches, je prétends que quand on est en interaction, s'il me fait une proposition sur cette marche-là, le meilleur feedback possible, il est sur la marche du dessus. Il est un peu au-delà de ses capacités du moment. Pour reprendre les termes d'une inspectrice générale de maternelle d'autrefois, elle disait, il faut que le modèle court devant les propositions de l'enfant. Vous voyez, à mesure qu'il progresse, on lui propose toujours de plus en plus difficile. Alors, l'autre théorie consiste à dire, quel que soit la marche sur laquelle l'enfant va être installé, on va toujours lui proposer le haut de l'escalier, c'est-à-dire la plus belle forme possible. La forme, il y a toujours une dimension esthétique dans ce type de proposition. Quand c'est dit d'une façon générale, c'est assez convaincant. On se dit pourquoi ne pas apprendre tout de suite le plus beau français possible aux enfants. Si, comme moi, vous avez l'expérience de dizaines et dizaines d'interactions comme celle dont je vous ai parlé, vous ne croyez pas un seul instant à cette position-là. Imaginez la fillette qui vient d'échouer sur le premier pourquoi de sa vie. Elle fermait bien sa porte pour qui, pour, comme ça elle ne pouvait pas rentrer le renard. Si vous appliquez la théorie numéro 2, vous êtes obligé de lui proposer elle fermait bien sa porte pour que le renard ne rentre pas. Vous doutez que vous voyez, ça ne va pas embrayer sur la construction en cours de l'enfant. Ce n'est pas comme ça que vous allez être le plus efficace. Attention, on n'est pas toujours en interaction. Par moment, par exemple, on raconte une histoire à la classe, on pose des consignes, soit pour la classe, soit pour des équipes variées de la classe. Cette fois-ci, on parle plus en son propre nom. On peut, vous le savez bien, si vos élèves sont par là, on peut se situer souvent par ici, vous voyez. On est deux, trois niveaux syntaxiques au-dessus du niveau habituel des enfants. Et vous savez que ça marche quand même, c'est-à-dire qu'ils vous comprennent. Parce qu'il y a une avance de la réception, de la compréhension sur la production. Un enfant reçoit, saisit toujours plus de formes de phrases qu'il n'est capable d'en émettre lui-même au même moment. Vous savez même qu'il reçoit, qu'il comprend au moins en grande partie, beaucoup plus de mots qu'il n'en produit au même moment. C'est la différence entre vocabulaire actif et vocabulaire passif. À cause de cette avance, quand vous parlez comme ça cette fois-ci plus en votre propre nom, vous pouvez être un peu plus ambitieux, vous situer 3-4 degrés au-dessus du niveau de la classe. Alors, les deux positions sont complémentaires et intéressantes. Dans cette dernière position, vous mettez devant eux le modèle qu'à terme, leur modèle de sortie. Bientôt, il faudra qu'ils parlent comme ça. Et par contre, à un certain moment, vous étayez, vous appuyez une tentative de production des enfants, le mieux, là, c'est la marque du dessus. Vous voyez, en jouant sur les deux tableaux, vous allez avoir une accélération d'ensemble qui va certainement être très intéressante. Vous me supportez encore, là? Alors, on va passer à 5 ans, et cette fois-ci, deux enfants vont s'exprimer. Il faut avancer le produit. Voilà. On est dans la ZEP de Beson. Donc Beson, c'est au sud de mon département, c'est la zone hyper urbanisée, c'est tout près de Paris, vous savez. Les deux enfants qui vont s'exprimer sont de niveaux extrêmement différents. La fillette qui va parler là, c'est une championne de syntaxe. Ils habitent tous les deux dans la même tour, à côté de l'école Victor Hugo, à Beson. Leurs parents sont aussi pauvres les uns que les autres. Mais l'histoire psycho-affective et linguistique de la fillette qui parle la première est telle qu'elle est extrêmement bonne en syntaxe. Elle est meilleure, je vous assure, que des enfants de 5 ans des milieux les plus favorisés de mon département. Lui, par contre, c'est le plus en difficulté des 5 ans de la ZEP de Beson. Alors, ils sont, je vous assure, strictement dans la même situation. La situation, c'est une situation liée aux échanges interscolaires. Cette classe de Beson, de la zone urbanisée, correspondait avec une classe du Vexin, c'est la zone rurale de mon département. Ils étaient par couple de correspondants, ils s'envoyaient des petits messages sur bande magnétique. Activité extrêmement intéressante. Comme la classe rurale était moins nombreuse, les deux enfants de Beson avaient la même correspondante dans la classe rurale. Ensuite, vous devinez la situation. Ils venaient de recevoir à Beson plein de messages des correspondants, chacun avait écouté les messages, et puis ensuite on les met par petites équipes, chaque enfant qui a écouté son message et compris son message le raconte aux autres. Donc les deux là sont strictement dans la même situation. En finale, la maîtresse regroupe tout le monde dans le carré de banc, on fait le bilan de tout ce qui a été dit, c'est préparatoire à la rencontre interclasse qui aura lieu la semaine suivante dans le Vexin, dans la zone rurale. Donc, la fillette raconte un peu, rencontre de ce qu'elle a entendu en disant « Moi, je veux dire que quand on va aller chez les correspondants, je vais pouvoir faire du vélo parce qu'elle dit sur la bande qu'elle va me prêter le sien, ma correspondante. » Alors, vous avez vu, c'est pas décrit, hein, vous avez encore « Elle va me prêter le sien, ma correspondante », c'est de l'oral, mais c'est de l'oral très construit. Énormément d'adultes français sont incapables de faire une phrase aussi complexe. Lui, on est à peu près certain, parce qu'on l'a un peu titillé après pour savoir ce qu'il avait compris, on est à peu près certain qu'il avait compris le message de la correspondante. Il n'arrive à poser, probablement pour dire la même chose que la fillette, il n'arrive à poser que « moi, y faire du vélo, y dire ça, y c'est sa correspondante ». Donc, vous avez un énorme écart. Alors, tout de suite, je vous signale que ce petit bonhomme, section de 5 ans, il a été soutenu par une maîtresse E tout au long de l'année. À la fin de l'année, elle ne l'a pas ramené aux prouesses de l'autre, mais elle l'a ramené quasiment dans des eaux de normalité syntaxique pour un 5 ans. Vous voyez, même perdu comme ça, grâce au travail en petit groupe, on peut faire progresser des enfants qui en sont là. Donc, ce n'est pas pour pleurer sur son cas que je vous montre ça. C'est ça qui est très important. Je vais donner 3 coups de projecteur sur des points qui jouent à une énorme fréquence. On va regarder l'écart entre les deux enfants et cet écart-là, on va le retourner en objectif prioritaire pour la pédagogie du langage. Alors, vous avez un premier écart. Cet écart, il porte sur la possession des pronoms dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Alors, les pronoms en question, c'est simplement, pas les pronoms savants, le, la, les, lui, le, non, juste, les pronoms de la conjugaison française. Je, tu, il du pluriel, elle du pluriel, on, nous et vous. Nous et vous savez qu'ils sont plus difficiles d'accès. Donc, vous prenez ces pronoms-là, les concernant, ils ne sont pas armés de la même façon. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi s'énerver sur ce tout petit problème? Tout à l'heure, dans le dernier document que je vais vous montrer, on va s'apercevoir que 80 à 90% des phrases des enfants ont un sujet dans cette série-là. Donc, vous voyez, ça joue sans arrêt, sans arrêt. Si on est bon dans ce domaine-là, si on possède bien les pronoms, on est beaucoup plus à l'aise que qui ne les a pas. Alors, lui n'a pas grand-chose. De la série complète, il n'a bien que le « i ».
Bon, sachez qu'il vient d'une langue, lui, il est arrivé à 6 mois, il vient d'une langue dans laquelle il n'y a pas de pronom. Donc, il a déjà compris quelque chose. En français, quand on ouvre la bouche, il faut mettre plutôt un pronom. Mais de la série complète, il n'a bien que le « i ». Alors, il s'en sert, il parle de sa correspondante, il pourrait nous dire « est dire ça ». Vous voyez, avoir mis une opposition « i est ». Masculin, féminin. Bon, là, même là, il fait le « i ». Puis, vous avez vu, le « i » lui sert à faire le « je ». Moi, « i ». Il avait aussi un « toi »« i » à la place du « tu ». Donc, il a compris quelque chose, mais il croit pour l'instant que le pronom, c'est « i ». Donc, il met son « i » à toutes les sauces. Elle. Elle vous dit « moi, je veux dire ». Donc, elle a son « je ». Parce que quand on va aller, elle a le « on ». Chez les correspondants, je vais pouvoir faire du vélo parce qu'elle dit, elle a le « elle ». Le « je » et le « on » ne sont pas si faciles d'accès que ça. On voit ça dans les enquêtes. Donc, à peu près certain qu'elle a la série complète, sauf peut-être nous et vous, hein, qui sont vraiment plus redoutables. Donc, voilà une priorité. Il faut aider le deuxième petit bonhomme à diversifier ses pronoms, à attraper la série complète. Pour les enfants très jeunes ou très en difficulté, c'est la priorité des priorités. Attraper les pronoms qui permettent de se situer dans ce qu'on raconte. L'aider à diversifier ses pronoms. Deuxième différence, il va y avoir que trois, deuxième différence entre les deux enfants qu'on va retourner en objectif prioritaire. Ça porte sur les temps. Donc, en français, ça porte sur le verbe. L'autre jour, j'étais avec des Basques. En basque, il y a deux fois plus de temps qu'en français. Vous voyez, le système temporel est deux fois plus développé. Ils codent dans leur système temporel plus de choses que nous. Alors, chez eux, c'est encore plus important. Par contre, vous savez, il y a des langues du monde où il n'y a pas de système temporel. Donc, évidemment, on arrive à rendre compte des temps, mais tout à fait autrement. Pour nos langues, aussi bien le basque que le français, le système temporel est très important. Toutes les phrases qu'on émet sont dans un temps. Hein, donc, ça, là encore, vous apprenez le mot « table » aux enfants, vous dites « je suis utile, il faut savoir table ». Mais ça joue beaucoup moins souvent que la position du présent. Par exemple, le présent, toutes les phrases qu'on émet sont au moins dans le présent. Des fois, c'est des temps bien plus compliqués. Vous voyez, ça, c'est pour ça que j'attire votre attention. Ça joue à une énorme fréquence. Alors, regardez, lui, il n'a pas du tout de système temporel. Il pose le nom du verbe à l'infinitif. Et cet infinitif n'a pas de valeur temporelle. On pourrait dire, c'est la moitié d'un futur aller, par exemple. Je vais faire du vélo, quelque chose comme ça. Mais c'est pas vrai pour y dire ça. Y dire ça, c'est il a écouté la bande, donc elle a dit ça. Hein. Donc vous voyez, il pose le nom du verbe sans le décliner dans un temps présent. Elle, par contre, alors ça c'est très important, regardez, elle vous dit, moi je veux dire. Elle a le présent. Que quand on va aller, elle a le futur aller. Alors je triche. Alors, tout de suite, regardez, pour pouvoir tricher, je vous montre un peu plus loin, il va vous faire, je vais pouvoir faire. Vous doutez que ça, c'est très compliqué au niveau temporel. Alors, quand même, je l'ai mis en situation de projet. Elle m'a fait présent et futur aller. Si je la mettais en situation de récit, à peu près certain qu'elle serait capable d'un passé composé. Pourquoi je peux vous garantir ça? Tous les petits français s'emparent du passé composé avant de s'emparer du futur aller. Vous voyez, c'est plus facile. Donc, à peu près certain qu'elle a aussi le passé composé quand on la met en situation de récit. Donc, elle a au moins le premier mini-système à 3 temps. Présent, passé composé, futur aller. En ce moment, je fais, avant, j'ai fait, après, je vais faire. On peut renforcer ça, vous savez, avec les plannings photographiques de journée ou de matinée. Voilà un planning photographique de matinée de la ZEP de Pontoise. La maîtresse a négocié avec les enfants une phrase très simple que tout le monde comprend. Voilà les phrases possibles pour la matinée. On met la carte d'appel, c'est la première chose qu'ils font en arrivant le matin. On joue, c'est comme ça qu'ils ont désigné le temps d'accueil. On chante ensemble, petite réunion pour chanter. On fait de la gymnastique, en fait c'est une séance de grande motricité qu'ils ont désigné là. On mange, c'est leur collation. On va en récréation. On travaille, séquence en atelier, pour eux c'est le travail. Ah, je me suis trompé, non. On raconte une histoire, rassemblement pour raconter une histoire, c'est l'heure des mamans. Alors, ceux qui sont prêts, vous voyez qu'il y a les petits crochets. Les petits crochets, ça permet d'installer le planning de matinée sur le mur latéral, tout à fait au bout là-bas. Vous avez la carte d'appel, à l'autre extrémité, vous avez l'heure des mamans. S'il y a des crochets, c'est que tous les matins, c'est pas le même ordre. Voyez, on met ça dans l'ordre prévu pour la matinée qu'on va vivre. Ensuite, à tout moment de la matinée, on peut se demander où on en est. Par exemple, si c'est la collation, les enfants vont dire « on mange ». Ils vont reconnaître la bonne photo. S'ils retournent à gauche, ils vont pouvoir dire « avant, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, passé composé ». S'ils vont de l'autre côté de « on mange », après « on va faire ça », on va faire ça, et puis ça va être l'heure des mamans. Vous voyez, vous avez un truc pédagogique qui permet de bien renforcer le système à 3 temps. Ce système à 3 temps, nous, on se l'est pris comme objectif pour nos sections de 3 ans. Vous voyez, les 3 ans sont capables de s'en emparer. Tout à l'heure, je vous parlais d'album écho, c'est une des armes qui permet le mieux de s'emparer des systèmes temporels. Alors, même en ZEP, le système à 3 temps est à la portée des 3 ans. Ensuite, à partir de 4 ans, même en ZEP, les enfants sortent du premier mini-système. Le premier système, il n'est pas très temporel. Vous savez, c'est plutôt le présent, l'avant-présent, l'après-présent. À partir de la section de 4 ans, ils vont vraiment dans le temporel, avec des vrais passés. Les passés en question, ce sont des imparfaits. Ils sortent leurs imparfaits presque toujours quand on évoque, par exemple, quelque chose qui leur a bien plu, vécu 15 jours plus tôt ou 3 semaines plus tôt. Naturellement, vous allez commencer à entendre des imparfaits que vous pouvez tenter de renforcer. Exemple vécu comme ça. Exemple vécu, une IMF de mon département me dit, dans ma section de 4 ans, je commence à entendre des imparfaits. Un matin, on arrive avec 3 photos géantes bleues prises 3 semaines plus tôt alors qu'il découvrait la salle de motricité d'une école maternelle voisine, salle de motricité sortant totalement de l'ordinaire. Vous avez des montagnes qu'on peut escalader, des ponts de singes, le mur du fond, c'est un mur d'escalade qu'on peut gravir ou traverser de diverses façons. Dessus, vous avez des petits foulards de couleur qui montrent les difficultés de passage. Sophie, l'IMF, donc, elle a son groupe dans le carré de banc, le groupe complet. Elle a un élément facilitant, son carré de banc est dans une niche insonorisée. Vous voyez, on s'entend très bien les uns les autres. Donc, elle, astucieusement, elle lance la séance à l'imparfait. Elle leur dit, qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Alors, les gosses regardent les photos et on entend des choses comme, on était en train d'escalader. Un gosse se voit sur le mur d'escalade et dit, moi je traversais le mur. Elle répète les imparfaits, il y en a de plus en plus, et à un moment donné, c'est pour ça que c'est si intéressant ce que je vous raconte là, à un moment donné, un gosse fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc c'était celui qui avait dit « moi je traversais le mur ». En faisant ça, il a fait un imparfait, et immédiatement après, il bascule son premier système dans l'imparfait. Il dit « moi je traversais le mur juste avant ». J'avais touché le foulard bleu, donc un plus que parfait, et après, j'allais attraper le foulard rouge. Vous voyez ce que c'est que ça? C'est un futur aller dans le passé, un futur aller dans l'imparfait. Donc, futur aller dans l'imparfait, lui, il a un système à 6 temps déjà. Au-delà, les gosses conquièrent le futur, ici vous allez avoir le futur antérieur, et ici vous avez ce qu'on a, dans le jargon de mon équipe, on appelle ça des futurs dans le futur, Je n'ai pas le temps de détailler ça, mais je peux vous en parler parce qu'il y en a un là. Elle vous dit quand on va aller chez les correspondants. Elle pose un premier futur. Je vais pouvoir faire du vélo. Elle arrive à évoquer avec son modal, je vais pouvoir faire quelque chose qui est encore plus loin dans le futur. Vous voyez, les caps, alors les futurs dans le futur, c'est toujours ça. C'est je pourrais faire, je devrais faire, il me restera à faire, j'aurai encore à faire. Voilà, elle a un système à 9 temps. Lui, il n'a même pas le présent. Elle a le même âge que lui. Elle dispose d'un système, elle a pratiquement reconstruit les deux tiers d'un système. Alors, il faut aider le deuxième petit bonhomme à refaire ce parcours-là. 1. Passer de moi y faire du vélo à moi je fais du vélo, attraper le présent. Attraper le système à 3 temps. Moi je fais, moi j'ai fait, moi je vais faire. S'emparer plus tard de l'imparfait, moi je faisais. Moi j'avais fait, moi j'allais faire, etc. etc. Il faut refaire ce parcours avec lui. Tout à l'heure, c'est pour ça que je vous parlerai de ça, je vais vous montrer les petits albums éco. On peut en faire de faciles qui travaillent le système à 3 temps de base. Je fais, j'ai fait, je vais faire. Et puis après, au contraire, on les provoque à l'imparfait. Et ce coup-ci, ça devient de bons vecteurs pour travailler imparfait, plus que parfait, futur aller dans l'imparfait. Vous voyez, vous avez, grâce aux albums éco, vous pouvez cultiver progressivement ce système qu'elle a déjà construit. Donc le deuxième objectif totalement prioritaire, c'est aider l'enfant à construire ses temps, à construire son système d'état. J'ai pas de place quand j'ai fait ça comme ça. Dernière différence, c'est la plus énorme. Dernière différence, elle porte sur la capacité à faire des phrases complexes. À faire des complexités. Phrases complexes, ce n'est pas juste des juxtapositions ou des coordinations avec « et » ou je ne sais quoi, c'est... Une des phrases est devenue complément de l'autre. Vous voyez, elle a été enchâssée dans l'autre. Alors elle, vous avez vu, vous avez au moins 3 types d'enchâssement. Elle a bien le « que » complétif, vous l'avez 2 fois. Regardez, à la fin de la phrase, c'est sa valeur habituelle. Elle dit sur la bande « qu'elle va me prêter le sien ». Au début, ça l'aide à asseoir sa prise de parole. Moi, je veux dire « que je vais pouvoir faire du vélo ». Elle a le « parce que ». Avec sa vraie valeur causale, pour faire plaisir à vos instructions officielles. Je vais pouvoir faire du vélo parce qu'elle me dit sur la bande qu'elle va prêter le sien. Et puis le plus phénoménal, c'est le quand. Regardez, elle commence une première phrase complexe. Moi, je veux dire que je vais pouvoir faire du vélo. Elle interpose quand on va aller chez les correspondants. Et après correspondant, elle retombe sur ses pieds. Elle termine sa première phrase complexe. C'est ça qui est extrêmement difficile. Donc c'est ça qui rend extraordinaire la prestation de la fille. Elle est très à l'aise avec les phrases complexes. Ça aussi, c'est un objectif important. Il faut encourager l'émergence des phrases complexes. Je vous dis ça comme ça, encourager. Regardez, mon exemple de tout à l'heure illustrait ça. La fillette voulait faire son pour que. Sans y parvenir, jamais on doit laisser tomber ça. Il faut souffler sur les braises. Souffler sur les braises, c'est trouver un feedback pas trop difficile qui va faire qu'elle va pouvoir s'emparer du pour-que. Et du coup, ce qu'a fait ma collègue tout à l'heure, elle fermait bien sa porte pour qu'il ne rentre pas le renard, c'était bien adapté pour que la gosse s'empare du pour-que. Voilà, ça, c'est le troisième objectif. Il faut encourager la complexification. Je vous mets ça comme ça, encourager la complexification. L'émergence des phrases complexes. Là, vous aviez que, quand, beaucoup plus difficile le quand. Parce que, le parce que, c'est le premier qu'on trouve dans les enquêtes et c'est le plus utilisé à la sortie de la maternelle. Et puis là, je vous ai mis le pour que je vous ai pris en exemple. Dans le livre à couverture verte, là, aux alentours de la page 200, vous avez une programmation très détaillée. Hein, les complexités à conquérir à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Vous avez un plan qui se détaille de plus en plus.
Et c'est bon de le suivre après dans cet ordre-là. C'est comme ça qu'on a trouvé l'émergence des complexités dans les enquêtes, vous voyez, qu'on a faites. Quand on veut accélérer les choses, il ne faut pas forcer la nature, il vaut mieux accélérer la nature. Hein, s'emparer de ce que font spontanément les enfants pour le refaire peut-être plus rapidement que les conquêtes habituelles des enfants. Donc voilà, vous avez les trois conquêtes importantes. Alors, cinq minutes en finale. Je vais vous montrer donc, pour parfaire l'image de la construction, je vais vous montrer les résultats d'une enquête massive en primaire. Ça se passe dans la ville de Saint-Ouen-l'Aumône. Saint-Ouen-l'Aumône, c'est dans la ville neuve de Cergy. C'est une ville sociolinguistiquement moyenne. C'est pas une ZEP à perte de vue, c'est pas du tout favorisé. Hein, vous avez une petite ZEP qui est concernée par l'expérience. Étaient partants deux très gros groupes scolaires. Un de la ZEP qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, un à côté de la ZEP, les Bourseaux. Bon, alors à côté de la ZEP, pour rien vous cacher, dans le hameau des Bourseaux, habitent beaucoup d'enseignants. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas un milieu linguistiquement défavorisé. Donc, étaient partants les moyennes sections, les grandes sections, les CP, les CE1, pas les CE2 et les CM1, massivement les CM2. Donc, vous allez avoir des données jusqu'au CM2. Alors, on va avancer d'un cran. Le résultat va être sur deux panneaux. Le panneau, c'est les phrases simples qu'ils émettent, là, les types de phrases simples dont ils s'emparent beaucoup, qui sont vraiment ce qu'ils manipulent, les pourcentages dont vous indiquez la proportion de chacun. Et puis l'autre panneau, ça va être les phrases complexes, évidemment. Alors, méfiez-vous, celui-là, c'est réducteur. Hein, ça vous donne une impression de peu construit. La construction va surtout émerger dans la conquête des phrases complexes. Alors, vous avez vu, c'est toujours les mêmes mots. Le petit garçon fait du vélo. Vous pourriez croire qu'on a obtenu ça avec une illustration, un petit garçon sur un vélo, en montrant ça à des centaines d'enfants. Pas du tout. Hein, pas du tout. On a, chacune des classes a déployé trois situations les plus différentes possibles. Ils ont enregistré, on a tout décrit dans nos grandes grilles, tout mis dans l'ordinateur. Et seulement, pour vous faire passer le message, on a mis toujours les mêmes mots pour que vous aperceviez la cascade de formes que développent spontanément les enfants. Alors, première chose, regardez, c'est la dernière ligne. La dernière ligne, c'est la déclarative simple. Vous savez, la phrase canonique des grammaires de l'écrit. Le petit garçon, groupe nominal sujet, fait, verbe, du vélo, groupe nominal complément. C'est l'atome de base de l'écrit français. Je vous assure qu'on pensait en trouver beaucoup. On n'en a trouvé que 2%. Donc extrêmement peu. Tout à l'heure, je vais vous dire, pour les CM2, ça va monter à 4%. Mais même 4%, ce n'est pas grand-chose. Hein, puisque vous allez avoir des masses à 60%, ou je ne sais pas quoi. Alors, par contre, je vous assure, vous regardez les enregistrements à tous les niveaux, même les CM2 dont je vous parlais à 4%, là, ils tiennent des discours qui tiennent la route, je vous assure, des récits de vie, des explications complètement intéressantes et efficaces. Hein, ils arrivent à faire comprendre les choses dans telle ou telle explication, par exemple. Alors, s'ils ne font pas ça, regardez, ils utilisent massivement, et même très petits, ils utilisent massivement les structures du haut du panneau. Ils vont vous dire, vous avez énormément de phrases qui sont extrêmement élémentaires. Premier type de phrase, en fait c'est un groupe du nom juste présenté. Il y a le petit garçon, c'est le vélo. Vous voyez, vous avez souvent environ 15% de phrases comme ça. Il y a des fluctuations, je vous passe les détails. Et puis surtout donc, vous avez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vous avez 60%, c'est un groupe, juste un groupe verbal, introduit par un pronom. Il fait du vélo, je fais du vélo, on a compté tous les pronoms possibles. Hein. Donc, vous avez 60%. Regardez quand même, je peux même vous détailler un peu. Le spécifier plus, la courbe de base de l'oral, c'est, vous avez un pronom, un verbe,
et puis un groupe du nom qui se réduit souvent à un déterminant et à un nom. Voilà la tombe de base de l'oral français. Caractéristique principale, ça commence par un pronom. Assez vite, les enfants sont capables de mettre une préposition ici et de rajouter un autre groupe du nom. Ça, c'est « il fait du vélo ». Et l'autre exemple, ça serait « il met la casserole sur le gaz », par exemple. Il y avait un autre complément. Ensuite, vous avez 20%, c'est plus « il fait du vélo », c'est pas encore « le petit garçon fait du vélo », c'est les deux à la fois. Le petit garçon, il fait du vélo. Il fait du vélo, le petit garçon. C'est ma phrase de tout à l'heure, vous savez, elle est cassée ta voiture. Donc, vous avez 20% là. Alors, regardez. Vous ajoutez les 75 plus les 20. 95% de phrases simples sont dans ces exemples-là. On peut, en caricaturant à peine, réduire leur grammaire spontanée des phrases simples en trois règles. Rappelez-vous la grammaire qu'on a apprise à l'école avec ses natures et ses fonctions. Les gosses adorent que nature et fonction se superposent parfaitement. Slobin a remarqué ça au niveau mondial, hein, c'est pas spécial aux petits français. Dans telle position et dans telle fonction, ils vont mettre toujours le même groupe de mots et le même type de mots, et ce type de mots, évidemment, ils ne le mettront pas ailleurs. Vous voyez, ils font correspondre position dans la phrase et type de mots. Alors, pour les petits français, en position sujet, ils adorent les pronoms. Vous voyez, pour eux, un bon sujet, c'est un pronom. Ça vient du fait que le langage se met en place dans les dialogues de la petite enfance, et dans les dialogues de la petite enfance, quasiment tous les sujets sont des pronoms. Deuxième règle, ils savent faire des groupes du nom quand même. Comme ils ne les mettent pas en position sujet, ils les mettent en position complément. Des fois, ils en mettent deux successivement. Alors, des fois, ces deux règles suffisent. La plupart du temps, les deux règles suffisent. Parfois, ça ne marche pas. Vous, par exemple, regardez, vous confiez à un 5 ans le récit de La Brouille. Vous connaissez l'album La Brouille de Goujon ? Le petit lapin marron, le petit lapin gris. Tous les héros sont masculins singuliers. Le lapin gris, le lapin marron, le renard qui apparaît aussi. Et du coup, le « i » ne va pas marcher. Vous voyez, la règle 2 tout à l'heure ne va pas être suffisante. Le gosse raconte son album sans montrer les images à la classe et à un moment donné, il dit « Il lance des briques au renard ». Les gosses vont dire « Mais lequel ? C'est tous des masculins singuliers ». Il va être obligé de dire « Le marron, il lance des briques au renard ». Et du coup, il fait un détachement. Et c'est dans ce cas-là qu'il fait un détachement. Lorsque son pronom, règle 2, règle 1 ne suffit pas, il explique qui est le pronom. Il va être obligé de lui apposer à son pronom un groupe du nom. Voilà, c'est comme ça qu'apparaissent les groupes du nom en position sujet. C'est le plus gros de leur grammaire des phrases simples. Ensuite, vous avez les yaki et les seki. Il y a le petit garçon qui fait du vélo. Celles qui sont en section de grand et au CP, ça monte à 10%. Il y a 10% de yaki. C'est surtout des yakis. Hein. Les sekis, c'est 0,4%, c'est presque rien. Donc, c'est surtout les yakis. Les yakis ont une grosse importance, c'est un élément de la construction, je vous en parlais tout à l'heure. Et puis après, vous avez 2% de phrases, on dirait des phrases de l'écrit qui sont venues se perdre dans l'oral. Le petit garçon fait du vélo. Alors, avant qu'on fasse la pause, on va jeter un coup d'œil sur le dernier panneau. Alors, très vite, regardez, ils vont prendre un atome comme ça, ils vont l'additionner avec un autre atome comme ça, pour faire une phrase complexe. Caractéristique, c'est que vous avez des pronoms en tête, surtout là. Hein. Après l'addition, vous avez toujours un pronom facilitant. Même dans des zones hyper favorisées, ça commence la conquête, je ne sais pas, j'ai étudié la conquête du mot relatif, dans une ZEP opposée à un mot hyper favorisé, dans les deux cas, j'ai vu quand même leur première forme de relative en OU suivie d'un pronom. Alors, on le vérifie sur les exemples de l'enquête de Saint-Ouen. Exemple, il veut que t'attrapes le chat, addition en que, il veut, pronom verbe, t'attrapes le chat, pronom verbe complément. Alors, pour la suite, on vérifie juste qu'après le mot de complexité se trouve un pronom. Par exemple, j'ai fermé la porte pour pas qu'on a froid, après le pour que, un on. Il est content parce qu'il va voir la dame qui lui donne des bonbons, après le parce que, un i, et même le i du qui, il a à voir avec notre pronom personnel i. Quand je vais à la piscine, elle me dit que je nage bien, après le quand, un je, après le que, un je. Je reconnais la maison où il se cache, le bonhomme, après le où, un i. Ce coup-ci, la phrase qui est additionnée, c'est le bonhomme, il se cache. Hein, c'est un détachement. Mais pour avoir le i facilement additionnable après le où, ils se sont débarrassés du bonhomme en le basculant à la fin. Donc vous trouvez, par exemple dans cette enquête, rappelez-vous, on avait les moyens, les grands, les CP, les CE1 et les CM2. Brrr, on met tous les résultats dans l'ordinateur et le résultat, l'ordinateur va nous dire en moyenne, vous avez trouvé 27% de phrases complexes. En gros, une sur quatre. C'est complètement insensé de tout mélanger, ça vous donne une idée simplement. Vous prenez au hasard, si vous y arrivez, quatre phrases, il y en a trois comme le schéma du haut et une comme le schéma du bas. Une complexe sur quatre à peu près. Et surtout, ce que vous trouvez, c'est que ça progresse progressivement tout au long du primaire. Par exemple, dans l'enquête de Saint-Ouen, moyenne section, on était autour de 13% de phrases complexes. Rappelez-vous, 10%. À l'orée de la maternelle, on a souvent 10%. 10%, c'est si je prends 10 phrases au hasard, non, 9 sont comme ça, la dixième est comme ça. Je vais, en grande section, je suis à 21%. Arrondissez à 20%, une sur 5 maintenant de complexes. Si vous en prenez 5, il y en a 4 comme en haut, une comme en bas. Vous traversez tout le primaire. Vous allez enregistrer vos CM2. Les CM2, c'est des enregistrements fleuves. Récit, récit de vie, explication, on les a toujours trouvés autour de 50% de phrases complexes. Maintenant, c'est une phrase sur deux, vous voyez, qui est complexe. Une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. C'est jamais comme ça, vous en doutez. Des fois, vous avez quatre phrases simples, et puis après, vous avez parlé d'une phrase avec cinq complexités dedans. En moyenne, ça fait une complexité toutes les deux phrases. Nous, les pédagogues du langage en stage, faisant des récits de vie, des explications, des argumentations, tout ça, on est souvent autour de 100% de phrases complexes. Vous voyez, notre phrase habituelle, c'est la phrase complexe. Et même en récit, un conte, par exemple, totalement inventé à l'oral, sans même que les gens soient prévenus qu'à la fin, on les filmerait en train de raconter leur conte. Il est à 130%. 130%, ça veut dire que c'est pratiquement que des phrases complexes. Et même, vous en avez une sur trois qui a déjà deux complexités par phrase. Ce qui n'a rien d'extraordinaire. Rappelez-vous la fillette qui a fait tout à l'heure une phrase complexe avec quatre ou cinq complexités dedans. Bon, rappelez, on va s'arrêter là-dessus. Donc 10% à l'orée de la maternelle, 20-25% à la fin de la maternelle, 50% les CM2, ça se retrouve en sixième. Les sixièmes, par contre, arrivant à tenir ça longtemps. Vous enregistrez un sixième en autonomie qui vous raconte une pièce de marionnette, sa prestation, qui tient sur deux pages une fois notée, elle va être à 50%. Vous voyez, il tient la complexité relativement longtemps. Pas tous, ceux qui sont plutôt à l'aise. Et puis, par contre, nous, on est autour de 100%. Vous enregistrez les hommes politiques. Dans la semaine qui suit les élections présidentielles, les taux de complexité sont déments, extrêmement élevés. Quel que soit le bord politique des gens, ceux qui arrivent à émerger là, dispose d'une syntaxe complexe extrêmement aisée. 5 minutes sur oral et écrit. Sous l'angle oral. Alors, j'ai insisté sur les trois points là, qui sont marqués au tableau. La diversification des pronoms, la construction des temps et l'encouragement à complexifier. Pour me faire comprendre, j'ai posé les trois points les uns à la suite des autres. Pour la pédagogie, c'est pas fameux, parce que souvent, ces points sont à traiter simultanément. Si bien regardez, que je complète en vitesse par un petit schéma en tuilage. Si je représente la mise en place des pronoms par ce petit segment-là, je vais faire un peu plus long le segment des temps parce que ça dure plus longtemps et beaucoup plus long la complexification qui, elle, se cache jusqu'à l'âge adulte. Alors, là, bon, les apprentissages se déroulant de la gauche vers la droite, la superposition des pronoms signifie que c'est à courir simultanément. Regardez par exemple l'enfant qui dit « moi y faire du vélo ». Si simplement j'arrive à ce qu'ils disent « moi je fais du vélo », il y a à la fois conquête du pronom « je » et conquête du présent. Vous voyez, en fait, c'est à courir simultanément. Je vous donne un exemple à un tout autre endroit. Fin de la construction des temps en rapport avec la complexification. On sait le futur antérieur difficile à conquérir dans l'oral par les petits français. Par contre, dans vos sections de grands, encore plus au CP, au CE1, on entend plein de quand. Les quand sortent très facilement. Dans une phrase aussi banale que « quand on aura fini, on pourra aller jouer », vous avez vu, le cadre quand, c'est excellent pour faire surgir un futur antérieur. Donc il faut savoir utiliser l'un pour appuyer l'émergence de l'autre. Ça fait que dans ce livre-là, pour toutes les situations que je vous ai signalées, à chaque fois, on vous signale les trois. On vous dit cette situation sert à attraper tel pronom, à construire tel temps et à encourager telle complexification. Dans ce livre-là, il y a une autre chose qu'on travaille, c'est les prépositions. En conférence, j'insiste jamais sur les prépositions parce que ça a toujours été bien fait. Vous savez, dans l'autre nom maternel, en liaison avec la motricité, sur, sous, devant, derrière, on a toujours fait ça très bien. Il faut continuer à le faire. Hein. C'est aussi une dimension importante de la conquête de la syntaxe. Alors, dernière chose à vous dire. Simplement ce que je vous disais quand on s'est séparé tout à l'heure. Dès la petite section, dans une enquête massive que j'ai faite à Rouen, 300 inscrits avaient enregistré massivement leurs élèves. On avait 10% dès la petite section de phrases complexes. Donc, en moyenne section, on était à 20. Et à Rouen, on arrivait à 29% en grande section. À Rouen, on n'a pas enquêté. J'ai travaillé une fois avec les maternelles. Donc, je vous remets le point de CM2 de Saint-Ouen. Ils étaient à 50%. On a retrouvé beaucoup au collège. Et nous, les adultes, on est assez aisément autour de 100%. Ça vous donne des repères. Et sur cette base-là, en 2-3 minutes, je vous parle de concentration. Je rajoute quatrièmement concentration. Déclairer ce que veut dire concentration. Je vous en parle pour plutôt vous dissuader d'aller trop dans cette direction-là. Hein, autant je vous ai fait de la pub pour pronoms, temps et complexité, autant je vous parle de ça plutôt pour vous dire que ça serait prématuré que de s'occuper de concentration dès la maternelle, par exemple. Concentration, c'est, vous savez, l'influence de l'écrit sur l'oral. Vous avez compris, la construction se fait dans le génie de l'oral, avec ces atomes, avec leurs pronoms là, qui s'additionnent entre eux. Au bout d'un certain temps, l'école insistant beaucoup sur l'écrit, ça finit par se patiner d'écrit. C'est ça la concentration. C'est le rapprochement des formes de l'écrit. Et on va parler de concentration parce que ça va s'accompagner d'effacement. Il y a des mots qui vont sauter. Ça va se concentrer, se rapprochant ainsi des modèles de l'écrit. Alors, avec ce document-là, non, celui d'avant, si possible. Avec ce document-là, ça va aller très vite. Regardez, le 2% de phrases de l'écrit, voilà de l'écrit dans l'oral. Ça, voilà, on a trouvé, on fait une enquête massive en maternelle et dans le primaire, on trouve des traces d'écrit dans l'oral. En plus, ce 2%, ceux qui ont connu mon livre « Introduction à la pédagogie du langage », c'était une moyenne qui se distillait 0% en maternelle, 1% en CP, 2% en CE1. Vous voyez, ça, ce tout petit truc qui grossissait doucement, ça montait à 4% en CM2. Regardez, à l'âge où ils font déjà 50% de phrases complexes, une phrase sur deux, la complexité est passée dans les mœurs, quoi.
il y a 4% de leur forme qui se rapproche des modèles de l'écrit.
Donc c'est un phénomène relativement tardif.
4%. 4% de forme de l'écrit.
Vous trouvez un résultat comme ça, évidemment, vous allez enquêter au collège. Dans des cinquièmes de collège, tous les profs de français étaient partants. On avait repéré que ça montait à 16%. Les cinquièmes de collège étaient à 16%. Regardez sur la dernière ligne, c'est plus 2%, c'est plus 4%. Comme au CM2, on est à 16%. Comme c'est des pourcentages, ça veut dire que les autres valeurs s'effondrent, évidemment. Nous, les pédagogues du langage en stage, travaillant aisément autour de 100% de complexité, il nous arrive de monter là à 25%. Une de nos phrases sur quatre ressemble à une phrase de l'écrit, est une phrase de l'écrit, quoi, émise à l'oral. Ce qui veut dire que trois de nos phrases sur quatre restent plutôt du génie de l'oral, ou bien élicitent aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Alors, regardez, pourquoi c'est si long qu'une déclarative simple, qui est simple quand même, apparaisse dans l'oral? Le panneau, c'est l'histoire d'une déclarative simple. Avant que les gosses disent spontanément « le petit garçon fait du vélo », ils vont d'abord faire passer ce message-là en utilisant le haut du panneau. Tout à fait au début, par exemple, ils vont prendre deux phrases d'en haut. Ils vont être obligés de poser deux phrases. Ils vont vous dire « il y a le petit garçon qui fait du vélo ». Il leur faudra deux phrases. Milieu du panneau, ils vont additionner les deux phrases. Ça va faire le petit garçon qui fait du vélo, ou bien il y a le petit garçon qui fait du vélo. Vous avez vu, le yaki, c'est l'addition des phrases du haut. Ça fait une phrase, regardez, qui est plus longue que la future déclarative simple. Et ensuite, ça se concentre. Le i saute, le yaki saute. Si le yaki de il y a le petit garçon qui fait du vélo saute, on tombe sur le petit garçon fait du vélo. Et c'est comme ça que se distille progressivement la déclarative simple. On parle de concentration parce que pour obtenir les déclaratives simples, il faut enlever les i, il faut enlever les yaki. Dernière chose à vous dire. Quand les gosses se mettent à concentrer, comme ça, à se rapprocher des formes de l'écrit, les premiers qu'on trouve faisant ça, il arrive qu'un CE2, vous voyez, un CE2 d'une classe entière commence à concentrer spontanément. C'est un phénomène relativement tardif. Donc, vous trouvez un phénomène comme ça, un peu tardif, pour vous faire passer les choses, j'ai raisonné sur une phrase simple. En fait, ils parlent déjà en phrases complexes quand ils font ça. Et du coup, je vous montre comment ça se passe en réalité. Avec deux exemples qui pourraient venir d'un CM1. Par exemple, l'exemple du pour que j'ai pris et l'exemple du où vous avez aperçu tout à l'heure. En-dessus, dans un CM1, les gosses ont bien le pour-que. La plupart des gosses ont le pour-que par rapport à ma maternelle de tout à l'heure. Il est souvent sous cette forme-là à cette époque-là. Elle ferme bien sa porte pour que le renard, il ne rentre pas. Vous voyez, traîne encore un i facilitant, mais le pour-que passe très aisément. Et puis, tel gosse qui jusque-là avait besoin de son i, tel matin, je l'entends concentrer, je l'entends enlever le i. Et donc, il va nous dire, elle fermait bien sa porte pour que le renard ne rentre pas. Vous voyez, il n'y a plus le i. Du côté de l'académisme, on est content. Pour le ou relatif, tout à l'heure, vous aviez l'exemple, je reconnais la maison où il se cache le bonhomme. Alors, beaucoup font comme ça, avec le i, là. Mais la plus, pour le ou relatif, alors j'ai travaillé sur des quantités gigantesques d'enfants. La plupart des ou relatifs émergent grâce au yaki. C'est le yaki qui aide à l'émergence du ou, dans des formes comme « je reconnais la maison » où il y a le bonhomme qui se cache. Vous voyez, le ou et le yaki vont bien ensemble.
Et puis un jour, tel gosse qui a fait ça très longtemps, il va enlever son yaki et on tombe sur « je reconnais la maison où le bonhomme se cache ».
Voilà, on sait, ça s'est rapproché des formes de l'écrit.
Mais vous avez compris que la construction se fait longuement dans l'oral et se patine d'écrit plutôt tardivement.
Je vais conclure là-dessus, avant d'aborder les aspects plus pratiques. Alors, regardez, quand même, les trois premiers phénomènes dont je vous ai parlé ça se met en place dès l'orée de la maternelle. Je vous assure, en Z, même les 3 ans font déjà des phrases complexes. Ça émerge là. Les autres phénomènes dont je vous parle, au mieux, à dose infinitésimale, vous avez des CE2 qui font ça.
Ça commence à prendre de la texture au CM2. Et regardez, entre la moyenne section, mettons, moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, vous avez 5 ans d'écart. Pendant ces 5 ans-là, c'est la complexification qui se fait. C'est ça qu'il faut prioritairement aider si vous voulez les rendre efficaces à l'oral. Au bout du compte, pour la construction de l'oral, c'est pas à parler comme un livre qui les rendra efficaces. Personne n'est efficace en parlant comme un livre. Par contre, il faut s'emparer des phrases complexes pour être efficace à l'oral. Donc, c'est plutôt ça que vous devez encourager. En maternelle, en particulier, donc, l'exemple de tout à l'heure, elle fermait bien sa porte pour qu'il ne rentre pas le renard, me semblait meilleur que, comme proposition, quelque chose qui va faire échouer l'enfant, qui est magnifique du côté de l'académiste, mais qui n'est pas encore à sa portée, comme elle fermait bien sa porte pour que le renard ne rentre pas. Vous voyez, encourager la complexification, la construction des temps, s'emparer de temps de plus en plus complexes. Vous voyez, ça c'est le fond du fonctionnement de l'oral. Alors, on n'a pas abordé le passage à l'écrit. Ce que je vous dis là, vous n'avez pas... C'est plutôt du côté de l'oral. Là, simplement, prenons le problème oral écrit sous l'angle de l'oral, je vous ai dit, attention, ne vous laissez pas piéger à tenter de rapprocher trop tôt l'oral des enfants de l'écrit. Mais vous êtes aussi les maîtres de grande section, les CP, les CE1, vous êtes aussi responsables de l'écrit. À l'écrit, il faut proposer les formes de l'écrit. Et puis vous allez avoir comment gérer les deux le mieux possible.